Loïc, merci pour l'accueil. C'est super gentil. Bon, ça met un peu la pression quand même, mais bon. Ok, alors, vous savez, c'est super de voir que le terrain est préparé. Hein, pour quelqu'un qui prêche ou pour quelqu'un qui conduit la louange, bref, c'est super de voir que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et au travers de la pensée de Laurent, très étonnante, hein, Pascal, hein? Enfin, on pourrait vous raconter ce qu'on disait, mais c'est à peu près exactement ce que Laurent a dit. Laurent a parlé du roi David. Vous vous souvenez? Et c'est vraiment le thème de plusieurs messages que nous allons avoir à partir d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, tu étais au courant, Laurent, ou pas? Vraiment pas. Bon. Donc, voilà encore un exemple de l'œuvre du Saint-Esprit. Je trouve étonnant que dans les pensées, eh bien, le roi David ait été abordé. Et. Donc une série de trois messages, je crois, hein, sur lesquels on va essayer de prendre inspiration parce que le roi David nous paraissait un personnage passionnant. Et en redécouvrant un peu ce personnage, j'ai trouvé qu'il était passionnant, qu'il était assez incroyable. Et ben voilà ce que je vous propose aujourd'hui en introduction, ben c'est de voir un peu l'itinéraire de vie de ce personnage biblique. Alors, si je vous interrogeais là, hein, si on faisait un petit temps interactif, David, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Un roi? Un homme selon le cœur de Dieu? Goliath? Hein, les enfants, je crois qu'ils diraient Goliath direct. Hein. Un guerrier? La louange, la harpe? La repentance? Berger? Adorateur? Waouh! Bon, le message est fait, quoi. Hein? Eh ouais, David, c'est tout ça, mais ça vous paraît pas étonnant qu'on puisse dire que j'ai entendu parler de guerrier, j'ai entendu parler de louange, j'ai entendu parler d'artiste, de harpiste, guerrier, harpiste. Vous trouvez que ça va ensemble, ça? Bizarre, hein? Hein? Comme quoi, on a des concepts humains, parfois, qui font que ben, on n'arrive pas à mixer les choses. Et David, eh ben ouais, David, c'est tout ça. C'est tout ça. Et. Si on devait faire une introduction, moi je dirais que David, il a un itinéraire de vie exceptionnel, exceptionnel. Et mixé d'aventures, de rebondissements, de choix, de miracles, parfois d'erreurs, et ouais, comme nous, parfois d'erreurs. Et il ressort, il me semble, de sa vie comme un fil rouge. Un fil rouge, eh ben c'est peut-être un homme selon son cœur, c'est qu'au-delà de tout ce qu'a pu être David, ce qui va être retenu, ce que l'Éternel cherchait, parce que ce passage qui est repris dans Actes 13, on refait un tout petit peu d'histoire, mais Saül est roi, son règne a duré 40 ans, mais à peu près au milieu de son règne, l'Éternel dit, le cœur de Saül est partagé, vous savez, il fait des choix un peu borderline, il n'obéit pas vraiment, etc. Et l'Éternel va pas rechercher quelqu'un de plus fort que lui, quelqu'un de plus brillant, quelqu'un de plus guerrier peut-être, il va chercher un homme selon son cœur. Amen. Et alors là, ça nous donne déjà une petite indication de ce que recherche l'Éternel. L'Éternel ne recherche pas forcément nos capacités, l'Éternel recherche un cœur. Et c'est ce que Magali a dit, un homme selon son cœur, et je crois que c'est vraiment voilà, un fil rouge. C'est-à-dire à l'époque, vous savez, un homme selon son cœur, ça signifiait vraiment un homme dont le cœur n'est pas partagé. Vous savez, à l'époque, il y a un enjeu d'adoration, cœur d'adorateur, c'est-à-dire quel Dieu, vers quel Dieu vais-je adorer? C'est ça l'enjeu de l'époque. C'est Baal ou c'est l'Éternel? Et Dieu, l'Éternel, avait reconnu que David n'avait pas de partage dans son cœur, qu'il avait fait un choix très clair, c'était l'Éternel. Voilà ce que peut signifier, entre autres, un homme selon son cœur. Alors, David, c'est un homme aux multiples facettes. Vous savez qu'il est reconnu comme un grand général. Il est reconnu comme un poète, musicien de grand talent. L'œuvre des psaumes est assez fantastique. 150 psaumes, vous savez combien ont été composés par David? 50%, 73. On lui reconnaît directement ou indirectement, soit il est l'auteur, soit il en est l'objet, mais en tout cas, 73 psaumes lui sont rattachés. Un stratège hors pair, le plus grand roi d'Israël, le plus grand roi d'Israël. Et le plus célèbre ancêtre de Christ. Rappelez-vous, comment on appelle Jésus? Fils de David. On ne l'appelle pas fils de Moïse, On ne l'appelle pas fils d'Abraham, on l'appelle fils de David. Vous imaginez un peu ce destin exceptionnel et cette marque dans l'histoire. Alors, on voit que David, il a ce côté hyper artiste, où il livre son âme, où il livre les mouvements de son âme. Hein, vous savez, David, il est comme nous, hein, il a des hauts, il a des bas. Et ce qui est beau dans ses psaumes, c'est qu'il les exprime. Et ça a donné de tellement beaux chants de louange. Et ce qui qualifie David n'est pas seulement son courage, on voit qu'il est courageux, on le voit très très tôt, mais c'est qu'il tire sa confiance dans l'Éternel. Et je crois que si on a une explication à donner de cet itinéraire de vie exceptionnel, c'est qu'il tire sa confiance de l'Éternel. En tout cas, c'est ce qui me semble en avoir compris. Alors, premier élément, David, si je devais un peu... c'est ce qu'on a dit ensemble, hein. David, un cœur de guerrier. Parce qu'on peut, dire que David est un beau poète et tout, mais enfin, quand même, sa vie est quand même composée en majeure partie de guerre. On va descendre un peu du concept. À l'époque, je veux dire, très très tôt, il est projeté au combat, David. Vous rappelez que juste à l'épisode de Goliath, quand je sais plus qui lui demande, je crois que c'est Saül, lui dit mais t'es pas un combattant, t'es un berger. Ouais, mais il a déjà des faits de guerre, David. Il a tapé un lion, il a tapé un ours. Il rappelle un peu ce qui s'est passé quand il était berger. C'était pas le berger tranquille, il protégeait ses brebis. Il a même, quand il le dit, il dit même qu'il a affronté un lion ou un ours pour protéger une brebis. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Waouh ! David est capable de ce courage. Et pourtant, ce courage n'est pas forcément ce qu'il a qualifié, c'est vraiment ce cœur entier pour le Seigneur. Alors, quand on parle de combat, et on le voit dans les psaumes, et je pense que c'est un enseignement pour nous, le vrai combat, on voit dans tous les psaumes, dans toute l'histoire de David, il est d'abord dans les pensées. Le vrai combat, il n'est pas sur le terrain. Je dirais que le terrain est le résultat de ce qui s'est passé dans son âme, dans ce qui s'est passé, dans ce qu'il a confié ou pas à Dieu. Et à plusieurs reprises, on voit que David, alors qu'il est un grand stratège, alors qu'il est un grand guerrier, vous savez, un grand guerrier, un grand stratège, il y a une part de calcul, hein, on calcule nos forces. Voilà, on est 2000, en face, ils sont 15 000. Est-ce que j'y vais ? Alors, en tant que guerrier, on va plutôt dire non. Sauf que David, ce qu'il a de plus que le guerrier traditionnel, c'est qu'il ne calcule pas comme ça. Derrière, David, à plusieurs reprises, il est dit, quand il est en difficulté, hein, et je ne vais pas reprendre toute l'histoire parce qu'on n'aurait pas le temps, mais David, il est en difficulté en externe, les Philistins, mais il est souvent en difficulté en interne, avec ses gamins notamment. Hein, il y a de la trahison, il y a beaucoup de choses, et à un moment donné, l'Éternel lui propose d'évaluer ses forces, objectivement. Il est dit souvent, il passa en revue ses troupes, et souvent il arrive à la conclusion qu'il est moins nombreux. Il est rare qu'il soit pléthorique en moyen, quoi. Et qu'est-ce qu'il pose à l'Éternel ? Il va dire, Éternel, est-ce que j'y vais ? Vous voyez que l'élément, il passe en revue, il fait son travail quand même de calcul, de guerrier, mais la décision, ce n'est pas le calcul, c'est ce que l'Éternel va dire. Amen ? Quel enseignement pour nous ? Quel enseignement pour nous ? On a chacun des combats. Vous savez, je crois que d'être chrétien, c'est une comment dire, excusez-moi, je suis un peu ému. Mais être chrétien et refuser le combat, ça ne me paraît pas compatible. Je crois que quand on prend ce rôle de chrétien, eh ben, y a le combat qui vient. Y a le combat. Et je sais que vous traversez sûrement des combats compliqués parfois, mais refuser le combat, l'accepter en comptant que sur notre propre courage, c'est presque une erreur aussi importante. Mais considérer, passer en revue des éléments objectifs du combat auquel nous on est confrontés, de dire à l'Éternel, j'y vais ou j'y vais pas, là ça change tout. Amen ? Est-ce qu'on peut dire amen à ça ? Est-ce que c'est prophétique pour chacun d'entre nous de dire, ok le combat, ok objectivement, je manque de force objectivement, je ne suis pas équipé objectivement, j'ai plein de choses. Par contre, Éternel, tu m'accompagnes. Et David avait cette certitude qui le met vraiment à la différence de beaucoup d'autres hommes peut-être. Il avait la certitude que l'Éternel était avec lui. Et là, il y allait. Et c'est cette parole que l'Éternel donnera notamment à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et je crois que c'est notre parole pour ce matin, dans cette idée de combat, fortifie-toi et prends courage. Et ce courage qui ne vient pas de nos capacités, parce que vous savez, on a tous un niveau de courage qui peut varier, en gros, hein. On peut être plus ou moins courageux selon certaines situations, mais ce qui est déterminant, c'est le courage que l'Éternel va nous donner. Et cet encouragement qu'il peut nous fortifier dans ce que nous traversons. Alors, en prolongement du combat, deuxième point, évidemment ce beau psaume 91 que David écrira dans ces situations, « Je demeure à l'abri de tes ailes », parce que c'est là que le repos se trouve. David, un cœur d'adorateur, ça a été dit, reconnaissant. Alors, ce psaume qu'on connaît tous, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Waouh ! Est-ce que vous pensez que d'oublier les bienfaits de Dieu, si David le dit, est-ce que vous pensez que c'est automatique ? Est-ce que c'est facile ? Je crois vraiment que le prolongement du combat, c'est-à-dire ce cœur d'adorateur, c'est d'avoir cette capacité de se souvenir et aussi une capacité d'oublier. Je m'explique. Se souvenir des bienfaits de l'Éternel, sans cesse. Dans Jacques, rappelez-vous, il est dit qu'on était des auditeurs oublieux. Et je pense que quand c'est dit, c'est surtout oublieux de la parole de Dieu. Je crois que c'est vraiment ce sens qui était donné. David n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire qu'il y a un défi, ça veut dire que c'est un combat, c'est le prolongement du combat. Je dirais que c'est le principal combat, ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel à notre égard. Et si David prenait cette position, c'est qu'il avait besoin de se nourrir des bienfaits de l'Éternel, il avait besoin de se nourrir de la guerre précédente dans laquelle l'Éternel était, pour nourrir sa foi aussi. Et n'hésitons pas à plonger nos regards dans ce que nous avons vécu, dans ce que nous avons constaté que l'Éternel faisait dans nos vies. Et par contre, autant on est appelé à ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel, autant on est appelé à oublier certaines choses. Ce que l'Éternel oublie, regardez, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et je crois qu'une des dynamiques de grâce, c'est d'accepter qu'on est pardonné. Et c'est pas si évident. Vous savez, souvent on est dans des beaux concepts de grâce, etc. Mais est-ce qu'on accepte vraiment d'avoir été pardonné pleinement ? Est-ce qu'on accepte l'efficacité du pardon de Christ dans nos vies ? Alors je crois que le prolongement du combat que David a mené, c'était de ne surtout pas oublier les bienfaits de l'Éternel. C'était vivant pour lui, et c'était vital, pardon. Et par contre, d'oublier à partir du moment où il y a eu repentance, et on verra que David avait aussi un cœur repentant, et bien c'est d'oublier, parce que Dieu a oublié. Serions-nous plus forts que Dieu de décider de nous souvenir de nos péchés ? Alors ça vaut pour notre frère et sœur. Est-ce qu'on est oublieux du dérapage de mon frangin ? Est-ce qu'on est oublieux de ce qui s'est passé ? Et est-ce qu'on se souvient par contre des bienfaits qui sont pour mon frère et ma sœur ? Et je crois que le cœur d'adorateur, alors ça peut être plein de choses, mais ce matin je recevais que c'était ça pour nous. Et quand Antoine nous a conduits dans cette louange, vous savez, ces temps de louange là, c'est pas de l'animation, hein. C'est pas de l'animation, hein. C'est vraiment nous aider à ne pas oublier ses bienfaits. C'est de proclamer qui est Dieu. Amen. Il y a de la réverbe. Amen. Et ouais, dans le psaume 78, il est dit, ils oublièrent ces hauts faits. Surtout, n'oublions pas ces hauts faits. Et voilà, et c'est une vraie discipline de parler en notre âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Troisième chose, un cœur confiant, soumis. Alors, vous savez, quand on est pris par la peur, je ne sais pas si vous avez connu des situations de peur, de crainte, d'anxiété. Souvent, le premier réflexe, c'est un réflexe humain, c'est de s'organiser humainement. je suis menacé, je prends une matraque. Vous voyez ce que je veux dire? Et David, il n'est pas meilleur que nous là-dessus. Vous savez qu'au début de son escapade, à deux reprises notamment, il va chez les Philistins, il va jusqu'à aller chez les Philistins, chez l'ennemi. Et notamment quand il est en relation avec le roi Achish, je crois que c'était son nom. À un moment donné, il fait le fou. Vous vous souvenez de cet épisode? Il fait le fou justement pour qu'il le laisse un peu tranquille. Quoi. Bon, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais c'est un peu ça. On a un autre épisode hein, où il y a des stratégies comme ça que des grands hommes de Dieu ont fait par peur. Et est-ce qu'on n'est pas un peu pareil, non? Alors, à la fois, ça me rassure, moi, que David ait vécu ça, parce que ça me montre qu'on a à peu près, vous savez, on est à peu près fait de la même pâte. Hein. On a à peu près les mêmes réflexes. Quand on a peur, quand on est projeté au combat comme ça, la première chose, c'est de prendre nos armes humaines et c'est de développer des stratégies. Et combien on est ridicule, des fois. Combien David, là, il s'est senti ridicule aussi. Il a fait le fou, celui qui a déjà reçu l'onction royale. Vous imaginez, il fait le fou pour que ça passe. Quoi. Et je crois que ce qui ressort de la vie de David, c'est justement tout ce qu'il va proclamer dans ses psaumes, notamment dans 1 Samuel, donc pas dans les psaumes. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. C'est un guerrier qui dit ça. Hein. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Voilà la dynamique, confiant, soumis aussi dans le sens où, à plusieurs reprises, on le sait, il aura l'occasion de tuer Saül. Vous vous rappelez? À deux reprises. Et même la tentation était grandissante, parce que là, il avait l'occasion de le tuer lui-même, où il coupe le pan de son manteau, vous vous rappelez? Il ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'il ne touchera pas à loin de l'Éternel. Waouh, quelle soumission! Objectivement parlant, un guerrier, il devait tuer là. Il avait toutes les raisons pour tuer, il était pourchassé, il avait une onction royale, donc il prenait pas le trône, il avait l'onction royale, spirituellement il était en place, il pouvait tuer Saül. Mais il est resté soumis, il a voulu que sa royauté soit mise en place par l'Éternel et par lui seul. Et deuxième tentation encore plus forte, là c'est un de ses hommes qui lui a proposé de le tuer la deuxième fois. Vous voyez que la tentation a monté de niveau. Là, c'était plus lui, il pouvait dire « Non, mais c'est pas moi qui ai tué. » Non, il dit à son homme « On ne touchera pas à loin de l'Éternel. » Waouh ! Confiance, soumission. Les deux vont ensemble. Je pense qu'on est soumis quand on a confiance. Et là, c'est un principe peut-être qui est valable évidemment pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on a peur de la soumission ? Ou est-ce qu'on est soumis par confiance ? Et David, à ce moment-là, il ne veut pas se rendre justice lui-même. Il dit « Éternel, rends-moi justice, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel et je ne chancelle pas. » Amen. Et ensuite, un cœur sincère, repentant. Et là, je crois que David nous montre toute l'étendue de la relation qu'il a avec l'Éternel, de cette confiance qui l'amène notamment au psaume 51, un psaume magnifique, où il dira notamment « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et ce qui ressort souvent de ce que peut dire David, ou de ce qui peut être dit de David, c'est, vous voyez, ce cœur dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et je crois que cette sincérité, quand David exprime l'état de son cœur dans les psaumes, on voit cette sincérité. On voit qu'il ne se la joue pas, quoi. On voit qu'il décrit l'état à peu près exact de son cœur. Est-ce qu'entre nous, est-ce que devant l'Éternel, on a cette liberté d'exprimer l'état de nos cœurs? Ou est-ce qu'on aime bien des fois jouer un peu, vous savez, le chrétien pour qui tout va bien? Mais est-ce qu'on a cette possibilité, cette ouverture entre nous, dans nos relations personnelles, dans notre culte, d'exprimer l'état de notre cœur? David avait cette sincérité de cœur. Et Et je trouve que c'était une de ses caractéristiques. Et cette sincérité l'amenait sur des chemins de repentance. Rappelons-nous son épisode très très compliqué où il devient meurtrier. Hein ? Tout le monde connaît cet épisode ? Et suite à cet épisode, il y a ce magnifique psaume qui est composé, le psaume 51. Au chef des cœurs, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba, qu'est-ce que dit David ? Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Alors là, ce qui est fou, c'est que des fois, on a une conception, vous savez, de la repentance qui est, qui peut être un peu dure, quoi. C'est-à-dire de se dire, il faut absolument que je vienne, moi, me repentir, me contrire, etc. Et puis l'Éternel va me pardonner. Et ça ne se passe pas tout à fait pareil, là. Comme ça, en tout cas. Regardez, il est dit, lorsque le prophète Nathan vint. Autrement dit, c'est déjà une démarche de l'Éternel. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que pour autant, David, honnêtement, là, il est grillé. C'est pas lui qui vient reconnaître dans un premier temps. C'est Nathan qui vient le voir. Nathan, prophète de l'Éternel. L'Éternel fait le premier pas. L'Éternel fait le premier pas. Vous me suivez ? L'Éternel fait le premier pas. Et ça n'enlève d'aucune manière la puissance de la repentance de David. Et c'est ça qui est beau, c'est que l'Éternel a préparé le cœur de David pour qu'il soit en capacité d'être repentant. Fais-moi grâce, dit David ensuite, conformément à ta bonté. Alors là, c'est curieux, on dirait qu'il parle presque à un président qui a la possibilité de faire grâce. D'ailleurs, c'est repris dans nos institutions, un président, ça a la possibilité de gracier quelqu'un, sans aucune raison. Enfin bon, il y a un processus quand même, mais il peut lever une condamnation de son propre vouloir. Et là, David, il s'adresse à l'Éternel un peu comme ça. Il dit, fais-moi grâce, conformément à ta bonté. Donc il s'adresse comme à un roi qui peut faire grâce selon, et là ça a été dit ce matin, une faveur imméritée. Grâce, vous savez, Loïc le rappelait, plusieurs mots pour le dire. Faveur imméritée. David ne méritait pas, mais il savait que le roi auquel il s'adressait avait la capacité de faire grâce. Il ne vient pas en disant « Ouais, mais j'ai quand même fait des choses bien. » Non, non, il dit juste « Écoute, fais-moi grâce, conformément à ta bonté. » Ensuite, il avance vers l'Éternel et il dit « Conformément à ta grande compassion. » Et là, il va solliciter le cœur maternel de l'Éternel. Rappelons-nous, Dieu est un père au cœur de mère. Et il sait que... Enfin, je ne sais pas si vous avez... Qui a des enfants, là ? Les mamans, là, s'il vous plaît. Bon. Imaginons, et je ne le souhaite vraiment pas, que votre enfant soit un meurtrier. Et évidemment, je ne le souhaite pas. Est-ce que vous ne seriez plus une maman ? Ben non. Ça ne veut pas dire que vous approuvez... Vous approuveriez ce qu'a fait votre fils, votre fille, mais vous resteriez avec ce cœur de mère et vous continueriez à accueillir votre enfant. Et c'est ce que David va solliciter, c'est ce cœur de mère, ce cœur plein de tendresse. Fais-moi grâce, le roi, ta compassion, cœur de mère. Et dans le psaume 27, il est dit, même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Waouh ! Alors David, il a un cœur repentant. C'est une vraie repentance. Et même si l'Éternel fait le premier pas, ça n'enlève pas la puissance de la repentance. Je pense que c'est un beau message pour nous ce matin aussi. Sincère, vrai. L'Éternel nous accueille à bras grands ouverts. Et La grâce est puissante et efficace. Alors, s'il était nécessaire de s'en convaincre en conclusion, je dirais que cette œuvre de David, de ce roi David, les psaumes étaient tellement conduits, bénis, que Jésus, vous savez que Jésus aimait les psaumes. Il en a cité plusieurs. Je parlais que David était l'ancêtre le plus grand. Hein, on appellera Jésus, fils de David, je le redisais tout à l'heure. Et chose extraordinaire, on est dans l'Ancien Testament évidemment, hein. Jésus n'est pas évidemment venu, on n'a aucune connaissance de la grâce, de cette puissance de la grâce. David a comme une préfiguration de ce qui va se passer, c'est un type de Christ, hein, on le dit souvent. Il a touché le cœur de Dieu, il a compris la puissance d'amour de Dieu, déjà à cette époque-là. Et quand l'Éternel apparaîtra à Salomon, son fils, vous savez, Salomon, il arrive, il est plutôt peinard. Hein. David a fait la guerre, a guerroyé quasiment toute sa vie. David, 40 ans de règne, hein, comme Saül, 40 ans de règne. Il est appelé très très tôt, on pense entre 10 et 15 ans. Et entre l'onction, 10-15 ans, l'appel, et sa royauté, 30 ans. D'accord ? Il est roi à 30 ans, il règne 40 ans. Salomon arrive, un pays en paix, tout va plutôt bien. Et l'Éternel apparaît à Salomon, et regardez ce qu'il dit à Salomon. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois, mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume d'Israël. Voilà la synthèse que fait l'Éternel de la vie de David. C'est pas de la grâce, ça ? Est-ce que vous voyez quelque chose qui apparaît d'une erreur que David a faite, quand bien même c'était un meurtrier ? Voilà le cœur de Dieu. Voilà ce qu'avait compris, entre autres, déjà à cette époque, David, de la puissance d'amour, de la puissance de pardon, de la puissance de grâce de l'Éternel. Et sans une révélation spirituelle, David ne pouvait pas le comprendre à l'époque, ce n'était pas possible. C'était tellement dur, c'était une époque tellement dure qu'il n'aurait pas pu saisir ça, quoi. C'est une révélation spirituelle. Et cette révélation spirituelle qui nous est rappelée ce matin, et c'est comme ça que je voudrais finir, le Seigneur nous aime. Il y a une puissance de pardon, une puissance de grâce sur chacune de nos vies. Est-ce qu'on en est convaincu? Peut-être certains ne connaissent pas, n'ont pas connu cet amour, n'ont pas accepté cet amour dans leur vie. Eh bien, c'est l'occasion. Vous ne trouverez pas de pardon, vous ne trouverez pas d'amour aussi grand que celui qui a été manifesté par ce Dieu. Et voilà ce que l'Éternel, moi si en fin de ma vie, si on disait à mes enfants à peu près ça, putain, je prends, quoi. Sans me comparer au roi David, hein, soyons clairs. Mais je prends. Si l'Éternel retient ça de moi, waouh, je prends. Je prends. Est-ce que vous prenez ce matin? Vous prenez? Eh bien, prenez, parce que c'est pour vous. C'est pour vous, et le sacrifice de Christ nous permet d'être à peu près sûr que c'est ce qui va être dit de nous. Soyez bénis. Amen. Voilà, je vous propose qu'on prie. Seigneur, on est ébahi par cet homme de Dieu que tu as conduit, que tu as choisi. Et en même temps d'être ébahi, on est reconnaissant, mais comme ce n'est pas possible, d'être au bénéfice de cette même grâce. Et Seigneur, je te prie maintenant pour chacun, chacune d'entre nous qui peut-être passons par des temps difficiles, certains qui sont projetés peut-être dans un combat qu'ils ne voulaient pas. Seigneur, je te demande maintenant, par ton esprit, de les convaincre que tu es avec eux. Et que quelle que soit la nature du combat, quelles que soient les armes, les forces en présence, l'essentiel n'est pas là, c'est que tu es avec eux. Et Seigneur, je te demande maintenant de nous en convaincre par ton esprit, que cette réalité spirituelle, elle descende dans nos cœurs, dans nos âmes, et que nos émotions soient touchées, que nos vies soient transformées, que notre réalité soit bouleversée de cette vérité, Seigneur. Et je te le demande pour chacun d'entre nous. Et merci, Seigneur, parce que ton œuvre est puissante. Il n'y a rien à rajouter. Tout est accompli. Et on veut se saisir de cette vérité, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.
Merci beaucoup, Franck. Je vous propose qu'on prenne la Sainte-Seine.